Hip-hop. Move. 13-00, vous êtes connecté sur Move. Hip-hop. Never stop. Move. 13h-13h30.
Move 13 Actu.
Alex Nassar. Info, culture, société, sport, e-sport. Tous les jours de 13 à 13h30 sur Move. Move 13 Actu. Toute l'actu de ce jeudi 2 novembre. Comment ça va la team Move 13 Actu? Vous êtes en forme?
Ouais,
vous étiez bien ce jour férié, pas férié? Oui.
Normal.
Move 13 Actu à la radio, bien sûr, ou sur votre smartphone via l'appli Move, mais aussi en vidéo sur Facebook Live. Connectez-vous sur la page officielle Move Radio. Au programme aujourd'hui, Lise, Emmanuel Macron qui veut réformer la Légion d'honneur.
Oui, une belle médaille accroché à un ruban rouge qu'on donne un peu à tout le monde et à n'importe qui, il faut le dire.
Oui, c'est vrai, oui.
Macron veut revaloriser la Légion d'honneur. Il présente aujourd'hui en Conseil des ministres de nouvelles modalités d'attribution. Retour sur cette distinction vieille de 215 ans.
215 et ans ouais. Ah oui, ça date. Hein. Ce sera dans le focus du jour. Guérin, toi, t'as vu que Orange, l'opérateur Orange, hein, lançait aujourd'hui sa banque en ligne Orange Bank.
Alors déjà, tu vas arrêter de dire bank. Soit tu dis Orange Bank, soit tu dis Orange Bank, mais tu prends une décision.
ça m'énerve beaucoup.
Franchement, en 2017, ce dont on a le plus besoin, c'est d'une nouvelle banque. Sérieusement, les man, sérieusement. Jean-Claude Orange, ou peu importe ton nom, tu m'écoutes et tu prends des notes.
Les nouveaux business pour Orange, ce sera dans la Zoom Bactu. Du sport aussi avec Greg, ça s'est très mal passé pour les judokas israéliens pendant un tournoi à Abu Dhabi.
Oui, c'était la semaine dernière. Clairement, les organisateurs, mais aussi certains judokas, n'étaient pas du tout ravis de recevoir des athlètes israéliens et ils leur ont bien fait savoir.
Ce sera dans le trash talk du jour de l'e-sport aussi dans Move 13 Actu, du sport électronique avec Max. Toi, t'es allé à la Paris Games Week.
Ouais, le salon des jeux vidéo qui se tient en ce moment Porte de Versailles à Paris, donc, puisque ça s'appelle la Paris Games Week.
Magnifique,
c'est logique,
c'est cohérent.
Et ça dure une semaine.
Moi, je suis surtout allé pour suivre le SWC, c'est la Coupe du Monde de jeux vidéo.
Remarque très pertinente, oui, de Lise. Paris Games Week, c'est à Paris, ça dure une semaine.
Ah, ça. Et ça parle de jeux vidéo.
Tout est dans le nom, c'est bien, ils sont bons en marketing. Ce sera dans l'Inside de Move 13 Actu, l'e-sport. On va beaucoup en parler aujourd'hui.
Move 13 Actu.
Jusqu'à 13h30.
Un invité avec nous aujourd'hui, il est journaliste et auteur, il a 28 ans, ses deux passions, c'est le foot et l'e-sport, j'ai bon ?
Exactement.
Ouais,
exactement,
il a notamment collaboré à 11 Mondial, il a sorti un premier livre en avril sur les entraîneurs de foot. Et aujourd'hui, nouveau bouquin dédié à l'e-sport, cette fois ça s'appelle « Jouer sérieux, le phénomène e-sport raconté par les gamers ». Tu voulais un titre long, hein ?
Ouais, j'ai absolument cherché les gens que tu te perds dans les titres.
C'était important que le titre soit long, c'est publié chez Marabout, Philippe Rodier est dans Move 13 Actu, salut Philippe.
Salut, merci, merci,
merci. Bah, merci d'être avec nous. Surtout, première question extrêmement simple.
J'ai peur.
Bah oui, mais tu vas voir, il va falloir y répondre. C'est quoi l'e-sport ?
Waouh, grosse question.
Eh oui.
Je dirais que c'est une passion.
Tu as 7 secondes.
7 secondes. Alors, tout de suite. Non, c'est une passion qui est jouée derrière un écran, donc une passion virtuelle.
Ouais.
Et qui ressemble assez au sport dans son approche, au niveau de l'entraînement, au niveau de la pratique. Et c'est surtout un phénomène qui existe depuis pas mal d'années et qui explose récemment. Et on en parle de plus en plus, alors que finalement, bah, ça existe depuis, je dirais, 20-30
ouais,
ans.
Ouais, depuis un petit moment. C'est du jeu vidéo en compétition, en gros, pour résumer. Ouais, Max, le gamer de la bande.
Toi, Philippe, qui a vécu les débuts de l'e-sport en France, t'as été champion de France, ouais, d'ailleurs, sur un jeu. Tu faisais partie de la team AA, c'est ça ?
Exactement, ouais.
C'était sur quel jeu ?
Moi, j'ai joué à Counter-Strike pendant 10 ans. Donc, Counter-Strike, c'est un jeu de tir, mais ouais, c'était le jeu le plus célèbre à mon époque.
Ouais, mais moi, j'y ai joué, tu vois, pour te dire.
Même mon père y a joué.
Non, on a tous joué.
Même Lise a joué à Counter-Strike.
Fake news.
T'es sorti un peu des frontières d'ailleurs de France ou t'es resté confiné ici?
Non, moi j'ai pas mal voyagé. C'est ce que j'essaye d'inculquer aux gens, c'est que moi le jeu vidéo ça m'a appris beaucoup de choses en dehors du jeu. J'ai eu la chance de voyager, de rencontrer plein de gens que j'aurais pas eu la chance de rencontrer grâce au jeu vidéo. J'étais aux États-Unis, j'étais en Suède, j'étais partout en Europe. Donc ça a été une passion et ça m'a permis de voyager et puis de rencontrer pas mal d'amis avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Donc c'est plus qu'un jeu pour être le plus clair possible.
T'en parles au passé, c'était de quelle année en fait cette carrière?
Moi j'ai joué de 1999 à 2011, donc j'ai arrêté sur le titre de champion de France. Je trouvais que c'était sympa.
Pas mal, champion de France de Counter.
Ouais, champion de France par équipe. Mes coéquipiers vont dire le mec, il s'accroche un peu le truc à lui. Mais champion de France par équipe, ouais. Et puis nous, on avait une particularité, c'est qu'en fait, on s'est connus dans le jeu, mais enfin, on était tous amis, on était tous de la même ville, on était en colocation, etc. Donc c'était un noyau d'amis avant d'être une équipe de jeu et c'est ce qui nous a permis d'être très performants, c'est ce côté ami justement.
Dans le bouquin tu parles de ces compétitions organisées à l'époque dans des gymnases, des MJC, des trucs comme ça. Ça se passait comment en fait?
C'est exactement ça, c'était dans des gymnases, dans des salles de quartier. Moi je me rappelle avoir fait des déplacements en train de 1000 km assis sur ma tour entre deux wagons en arrivant dans la campagne française avec une salle des fêtes, alors qu'aujourd'hui ça existe plus trop ce format là. Vous avez beaucoup plus de compétitions online sur internet et des grosses salons salon du jeu vidéo comme, comme la Paris Games Week, on est tombé dans quelque chose qui est plus du business aujourd'hui que c'était à l'époque, je pense.
Il y a des gars comme Bruce Granek qui m'expliquaient qu'ils se, ils se baladaient carrément avec leur écran. Ouais. Ça t'est arrivé aussi, toi?
Bien sûr, Bruce, justement, on s'est côtoyé.
Bruce, qui est un très très grand champion de, ouais, de FIFA, des PES, ouais, ce genre de choses.
Moi, je l'ai connu à son premier titre de champion du monde et c'était, bah, c'était un petit gamin, quoi. Ouais. Enfin, c'était drôle de le voir. Et puis aujourd'hui, bah, c'est une star nationale, moi, je trouve. Enfin, y a beaucoup, on le connaît, beaucoup de gens le connaissent. Et oui, c'était ça, quoi. On se baladait avec les gros écrans, parce que là devant moi là, pendant la radio là, j'ai un écran plat, à l'époque c'était des écrans CRT et ça faisait 15-20 kilos quoi, donc les trajets en 206 avec 5 écrans à l'intérieur.
D'ailleurs à l'époque costaud. On parlait pas vraiment d'e-sport, le terme n'existait même pas.
Ouais, ça c'est
c'était
vrai.
C'était des LAN, c'était des...
Il n'y avait pas de terme e-sport, ouais, c'est, ça a été créé, bon, j'ai pas l'année exacte, mais il n'y avait pas le terme e-sport, c'est quelque chose qui arrive assez... enfin pas récemment, parce qu'il y a 10 ans on en parlait quand même du mot e-sport, mais c'est vrai que ça n'existait pas quoi. En 1970 quand ils ont fait des LAN aux États-Unis, c'était surtout des rassemblements de potes.
Préciser, en fait, les LAN, c'est des gamers qui se regroupent quelque part.
Ils connectent leur ordinateur entre eux.
Chacun leur ordinateur, ils se connectent, voilà, ils se connectent en local et ils jouent en local ensemble pour avoir un meilleur.
Et après, ça pue le chacal.
Et après, ça pue le chacal. C'est vrai que généralement, ça sent pas très bon à la fin, non, à la fin d'une LAN.
Tu plaisantes, mais les LAN, les LAN comme la DreamHack par exemple, qui ont commencé, c'était tout petit, c'était des trucs dans des hangars et aujourd'hui, c'est carrément dans l'équivalent d'une salle comme Bercy.
T'as ça a vachement évolué, ça a changé quoi.
Avec des vrais stars autour. C'est quoi d'ailleurs les jeux les plus populaires du e-sport aujourd'hui?
Aujourd'hui, tu as toujours Counter-Strike, Counter-Strike Go, mais c'est plus, enfin, c'est le jeu le plus apprécié, je pense, par les puristes, dans le sens où tu as beaucoup d'action. Bah, c'est un jeu de tir, donc ça bouge beaucoup à l'écran. Après, tu as League of Legends, qui a changé la dimension de l'e-sport. L'e-sport a explosé, en fait, avec l'arrivée de League of Legends, surtout, je pense, qui a été un jeu très populaire, très rapide.
C'était il y a combien de temps?
Là, je vais dire une grosse connerie, donc je sais plus exactement. League of Legends, je crois que c'est 2011 ou 2012.
D'accord, c'est très récent. Quoi.
Ouais, League of Legends, c'est un jeu assez récent, mais c'est vraiment le jeu qui a dopé la communauté e-sport parce qu'il est très accessible en fait. Mm-hmm. Il est surtout joli visuellement, donc ça intéresse les spectateurs. Donc t'as League of Legends, Counter-Strike, FIFA évidemment.
Bien sûr.
T'as Hearthstone qui est un jeu de cartes qui est très similaire au jeu d'échecs si on veut comparer un peu les jeux entre eux. Donc voilà, et surtout ce qu'il faut retenir avec l'e-sport, c'est que à l'inverse du sport, c'est-à-dire tu peux pas inventer de sport en fait. Enfin, c'est difficile d'inventer du sport parce qu'un jeu, t'en as tous les ans qui sortent. Donc, finalement, l'e-sport a, on va dire, une base assez illimitée. C'est-à-dire, tous les années, il peut y avoir un nouveau jeu qui sort et devenir le jeu référence dans l'e-sport. Et c'est ça qui est super intéressant.
Et d'ailleurs, c'est l'enjeu de pas mal d'éditeurs qui essayent de sortir le jeu qui va devenir la nouvelle référence pour l'e-sport. Guéran,
il y a StarCraft aussi, non?
Ouais, StarCraft. Ouais. StarCraft, ça a été.
D'où tu sors ça, StarCraft, toi?
C'est parce qu'en fait,
il le sort de loin là.
J'ai fait au hasard.
Le mec, ça marche. Hein.
Attends, je vais dire Craft, Star. Non mais League of Legends et Starcraft, c'est bien les jeux où quand t'as jamais joué, tu ne comprends pas ce que les gens font.
Ouais.
Avec
c'est beau.
Les équipes. Non mais si.
Non, il a entièrement raison sur ça. Et ça, c'est un vrai débat parce que je pense que vous avez vu que le gros débat en ce moment, c'est est-ce qu'il faut intégrer l'e-sport aux Jeux Olympiques.
Oui, on en parle beaucoup.
C'est un gros débat, ça, qui débat de ça.
C'est un énorme débat.
Le CIO a communiqué là, il y a 3-4 jours en disant qu'ils étaient prêts à reconnaître les athlètes e-sport comme des sportifs à part entière. Et la vraie question justement, c'est quel jeu on va diffuser si c'est intégré aux Jeux Olympiques, parce que comprendre un jeu, c'est assez compliqué. Donc là, on en parlait avec Greg, FIFA, c'est compréhensible.
Parce que c'est du foot.
C'est du foot.
Mais après, est-ce que les gens qui regardent du foot généralement vont aller regarder du foot virtuel?
C'est une bonne question.
Pas.
Après, Counter-Strike, c'est de la guerre, donc du coup, c'est compliqué.
C'est impossible, ça colle pas avec les valeurs du CIO. Donc
et après, t'as des jeux comme StarCraft où tu comprends pas forcément ce qui se passe, où il y a un gros process.
StarCraft, un message.
Je suis en train d'imaginer la pub pour Counter-Strike au JO.
Tu peux pas, mais ça existe.
L'important, c'est de participer, fils de pute.
C'est vrai. Et ça, c'est une vraie question. Non, mais sincèrement, moi qui suis joueur aux États-Unis, il y a un tournoi qui s'appelle le League. Ils font des diffusions, donc des matchs avec des jeunes qui présentent les rencontres avec des Kalachnikov en main.
Ouf.
Moi, je pense que vu la période qu'on est en train de vivre,
c'est pas une très bonne idée. C'est pas du tout une bonne idée.
Je pense qu'il faut le faire autrement et il faudrait peut-être même supprimer ces communications autour des matchs.
Ouais. Hein,
parce que tu peux pas. Enfin, tu vois, il y a une tuerie
hier. D'accord.
Aujourd'hui, tu fais une pub avec Kalachnikov en main.
Non, c'est très mauvais. C'est un très mauvais signal.
Cela dit, il y a des jeux comme Just Dance par exemple qui se pratiquent beaucoup en e-sport.
C'est de la danse, et voilà.
Non, c'est de la danse, voilà. Donc, tu es devant ton écran et tu danses. Et en plus, c'est bien parce que ça mélange à la fois le côté physique et le côté pur jeu vidéo. Donc, peut-être que là-dessus, il y a des pistes aussi à creuser. D'ailleurs, en France, on est très très bon en Just Dance.
Mais pourquoi pas, comme les X Games, qui sont pour les sports extrêmes, créer des jeux olympiques de l'e-sport que de les mettre dans les Jeux Olympiques.
Et ça, c'est une vraie question. Moi, je suis pour ce que tu dis. Moi, je ne suis pas pour. C'est pas pour. J'ai écrit le livre sur l'e-sport. J'ai joué pendant des années, je suis un avocat entre guillemets d'e-sport, mais je suis pas forcément pour une intégration d'e-sport aux Jeux Olympiques. Je suis pas certain que ça soit qualitatif pour la discipline. Mmh. Je pense que ce serait mieux de faire quelque chose à part, justement, comme tu le dis, comme les X Games, où ça vient déjà exister. T'avais les WCG qui étaient plus ou moins.
Les World Cyber Games.
Exactement, les World Cyber Games, ça ressemblait plus ou moins au modèle des Jeux Olympiques. Et moi, je pense que donc, cette compétition est morte en 2013. Je pense qu'il faudrait relancer cette compétition parce que imposer quelque chose à des gens qui ne plaît pas, enfin, l'e-sport ne plaît pas à tout le monde, j'ai pas envie d'imposer mon jeu à tout le monde.
Bien sûr.
Et surtout, ça soulève une question importante, c'est quelle est la différence entre le sport et l'e-sport? Parce que j'en ai discuté justement avec Julien Brochet, qui est l'organisateur de l'ESWC il y a quelques jours, et il me disait, mais non, mais de toute façon, l'e-sport, ce n'est pas du sport, c'est autre chose.
Alors, qu'est-ce ça, c'est une vraie question. Moi, je définis, ça dépend, déjà, ça dépend qu'est-ce qu'on appelle sport. Tu vois, déjà, il y a du sport et puis il y a les activités sportives. Par exemple, les échecs sont reconnus comme du sport en France depuis les années 2000.
Alors, c'est un bon exemple.
C'est un très bon exemple. Je pense que c'est celui qui le ressemble le plus à l'e-sport dans son approche, la façon de s'entraîner, la façon de se préparer pour les rencontres. Moi,
il y a le bridge aussi.
Exactement.
Il y a les champions du monde.
Mais c'est vrai qu'on se pose plus tellement la question de savoir si un joueur d'échecs, il est légitime ou pas en tant qu'athlète.
Ce qui est intéressant sur la discipline, sur la dimension physique, c'est que moi, je suis un grand fan des échecs de Garry Kasparov. Garry Kasparov, en fait.
Grand champion.
Grand champion avec un duel énorme contre Karpov dans les années 80-90. Ouais. Et Karpov, en fait, pour rejoindre le niveau de Kasparov, lui, il a fait attention à son alimentation, il a fait du sport à côté. Donc il y avait vraiment une recherche au-delà du côté de. Ben non, en fait, je suis juste assis. Et
Il a fait comme un athlète, quoi.
Exactement.
Ouais, il a fait attention à tout, tous les éléments.
Mais pour l'e-sport, c'est pareil, il y a une préparation. Enfin,
bien sûr. Il y a un entraînement, il y a une préparation.
Il y a même une dimension physique. Moi, j'ai fait des matchs, comme vous avez vu sans doute à la Paris Games Week, des matchs sur scène avec des milliers de spectateurs devant. Mais quand tu ressors du match, sincèrement, t'es fatigué.
Ouais, t'es rincé, quoi.
Ouais, t'es rincé.
Max. Non, j'allais dire, du coup, aujourd'hui, l'e-sport, c'est quand même un phénomène qui est encore relativement confiné au net. On comprend plus trop les chaînes sur Twitch, sur YouTube, etc. En gros, pour mater du foot, t'allumes ta télé pour regarder l'e-sport. Tu vas sur le net, ça semble normal et évident, mais c'était pas forcément le cas il y a encore pas si longtemps. En 2014, le gros journal de Canal+ découvrait Twitch et l'e-sport. Petit extrait.
Vous connaissez l'addiction aux jeux vidéo. Maintenant, il y a une addiction aux vidéos des gens qui jouent aux jeux vidéo. Ça s'appelle Twitch. Twitch, c'est une plateforme, en fait, où les gens se filment live en train de jouer aux jeux vidéo. Donc, il y a déjà 5 millions d'utilisateurs.
Il y a des gens qui, donc, regardent d'autres gens en train de jouer.
Voilà.
Pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie, quoi. C'est une désolation totale, ce que vous me racontez, Mathilde.
Voilà, c'était en 2014, au Grand Journal, Mathilde Serrel et Antoine Decaune. Donc, une désolation, selon Antoine Decaune à l'époque.
Avec un ton condescendant assez élevé.
Il s'était excusé par la suite, quelques jours plus tard.
Si vous avez vu l'émission en vidéo, vous avez vu que Philippe était dans le même état que quand moi, j'entends pas Zinedine.
Exactement ça. Bah, Philippe, tu te souviens forcément de cette séquence. Aujourd'hui, Twitch, c'est 100 millions d'utilisateurs par mois. Et le grand journal, les audiences, voilà. Ça n'existe plus. Ça a bien changé. Et d'ailleurs, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, il y a une émission d'e-sport sur Canal.
Mais c'est ce que j'aimerais poser comme question à Antoine Decaune, c'est qu'est-ce qu'il pense du Canal e-sport Club, donc une émission qui marche bien sur Canal et qui est peut-être une des seules émissions qui justement marche bien.
Il faudra lui poser la question. Mais je pense que depuis, il a bien compris que c'était tout à fait normal et cohérent.
Je pense que ses enfants lui ont même un peu tapé dessus.
Ouais, c'est possible, c'est possible. On va y revenir de toute façon, Max, au phénomène e-sport, puisque t'es allé traîner ton micro à la Paris Games Week.
Oui, donc le salon des jeux vidéo qui se tient en ce moment porte de Versailles. Moi, je me suis surtout intéressé à l'ESWC. C'est un immense tournoi de jeux vidéo.
Ce sera dans l'inside de Move 13 Actu. Tu restes avec nous, Philippe. On rappelle ton livre que j'ai ici, Jouons sérieux, le phénomène e-sport raconté par les gamers. C'est dispo aujourd'hui aux éditions Marabout.
Alex Nassar. Move 13 Actu.
Le focus de Move 13 Actu, tous les jours un sujet d'actu a priori compliqué expliqué en moins de 3 minutes. Aujourd'hui, Lise, la Légion d'honneur.
Oui, et d'ailleurs, à qui devrait-on attribuer la Légion d'honneur? On vous a posé la question sur Snapchat. Voici les réponses de Solahu, Hicham et Picsou.
On devrait décerner la Légion d'honneur à toutes les femmes qui ont arrêté leur travail pour s'occuper de leurs enfants avec presque rien comme salaire.
Je pense que nous devons décerner la Légion d'honneur à Move Radio.
Pour moi, ceux qui méritent la Légion d'honneur, c'est uniquement nos militaires français, nos forces de l'ordre, nos pompiers et nos infirmiers, docteurs, etc. C'est tout.
Ça se défend. Il y a quelques bonnes idées. Pour commencer, Lise, et pour bien comprendre, quand a été créée la Légion d'honneur?
Elle a été créée par Bonaparte en 1802. C'est la plus haute distinction nationale. Elle récompense le mérite personnel au service de la nation.
Alors, qui peut la recevoir, cette Légion d'honneur?
Elle est décernée quasi automatiquement aux anciens ministres, aux académiciens, aux ex-ambassadeurs, mais aussi aux militaires qui représentent 40% des décorés.
D'accord. Quel président en a le plus attribué?
Alors, à votre avis,
quel président? Chirac,
Nicolas Sarkozy.
Alors ouais, Mitterrand, 48 326 au total, mais c'est assez logique puisqu'il est resté 14 ans au pouvoir, oui, donc forcément, il a eu deux fois plus de temps pour en donner. Jacques Chirac en a accroché 48 163 en 12 ans.
Mais c'est énorme.
Mais en fait, si on regarde le nombre moyen de légions d'honneur attribuées par an, c'est pas du tout lui le plus généreux, c'est Valéry Giscard d'Estaing, 4 600 par an, devant Nicolas Sarkozy, 3 461 par an, ça fait 17 304
c'est
en 5 ans.
C'est monstrueux, c'est des
pendant son
incroyable.
Quinquennat, François Hollande en a distribué quasiment autant, 17 218 alors, au total.
Emmanuel Macron, lui, il compte en donner beaucoup moins.
Ouais, largement. En tout cas, le signal qu'il a voulu donner le 14 juillet dernier, il n'avait retenu que 101 lauréats sur les 600 noms proposés.
D'accord.
Il veut revaloriser la Légion d'honneur, comprenez, arrêter de la donner à tout le monde.
Oui, parce que tu parles des hommes politiques et des militaires, mais il n'y a pas que.
Quand tu regardes de plus près, c'est une sacrée Zumba. Daniela Lombroso, Michel Leb, encore Mimi Mati, ont la Légion d'honneur. Voilà. Il suffit qu'un nom soit proposé pour que le dossier soit étudié et potentiellement aboutisse, hein, c'est le risque. Il faudra juste m'expliquer en quoi Joséphine Angardien est un service rendu à la nation, un service rendu aux audiences de TF1 tout au plus.
Guérin, si, ça, c'est pour les gens de petite taille, ouais, tout ça.
Mais
c'est,
oui, d'accord.
C'est Daniela, Charise, ouais. Non, mais liste, tu disais, oui, il faut juste déposer un dossier. C'est pour s'inscrire, ça m'intéresse.
je vais te le dire, tu vas voir. Toi, tu peux pas, mais on peut te proposer, nous.
Ah c'est vrai que c'est un peu n'importe quoi. Et du coup, Macron propose quoi?
Il propose de réduire drastiquement le nombre de décorés dès la promotion du 1er janvier 2018.
Okay.
Les ministères qui identifient les lauréats possibles ne pourront proposer que 600 noms maximum.
C'est encore énorme.
Mais ouais, c'est encore beaucoup. Mais après, la liste sera affinée par le Conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur, puis par le président de la République.
Alors, fini aussi les promotions automatiques.
Oui, je vous en parlais, les anciens hommes politiques et les militaires ne la recevront plus systématiquement. Pour un militaire, il suffira plus d'avoir été appelé sur un théâtre d'opération. Il faudra avoir fait preuve d'un engagement particulier dans une mission.
D'accord. Emmanuel Macron veut également favoriser l'initiative citoyenne.
Oui, Alex. Ouais, pour que Virginie Efira reçoive enfin la Légion d'honneur, il suffit juste que tu le proposes, en fait.
Au moins, Virginie, elle le mérite.
Voilà, hein. Tu devras fournir en préfecture un dossier biographique et 50 signatures de citoyens majeurs recueillies au sein du département de la résidence de la personne proposée.
Ah, il faut travailler.
Je sais pas où elle habite, mais bon, bref, dans son département.
Moi, je sais.
Elle pourrait être.
C'est quoi l'adresse?
C'est stalker horrible.
C'est effrayant, en fait.
Bon, je déconne, ça va, je plaisante.
Proposée ensuite, donc elle pourrait être décorée. La pratique, en fait, elle existe déjà, mais elle a été un peu oubliée. Emmanuel Macron souhaite la remettre au goût du jour.
Virginie, qu'on embrasse évidemment très fort. Philippe, pas mal de sportifs ont déjà reçu la Légion d'honneur, notamment les 92 médaillés des derniers JO à Rio. Donc tu prends une médaille, bronze, argent, or, peu importe. Ouais. T'as ta Légion d'honneur. Est-ce que c'est déjà arrivé dans l'e-sport?
Alors sincèrement, j'ai pas connaissance et je ne crois pas.
Bah voilà, je confirme, ça n'est jamais arrivé. Voilà. On a regardé un peu avec Max.
Du coup, si jamais ça arrive au JO, vu qu'on a des très bons joueurs en France, pourquoi pas?
C'est comme quoi il y a encore un peu de chemin à faire avant que les sportifs soient aussi bien considérés que les sportifs classiques, les e-sportifs, je voulais dire bien sûr. Merci beaucoup Lise pour ce focus. Alors ça, c'est le générique de la série Orange is the New Black, parce que forcément, Guérin, tu vas nous parler de série.
Mais non, parce que en fait, c'est Orange is the New Bank.
Oh ah,
astuce sémantique, parce qu'aujourd'hui, ma Zumbactu est économique, rime riche, comme les clients d'Orange Bank. Putain, c'est une phrase à tiroir qui ne s'arrêtera jamais.
Non, on va s'arrêter là. Gardons un petit peu sous le pied le nouveau business d'Orange dans la Zumbactu dans quelques instants. Mais d'abord, Greg a une info pour nous, 13-17 sur Move.
Move très actu.
Jusqu'à 13h30.
Le sachiez-tu de Greg? Ne sois pas surpris, Philippe, c'est pas la séquence la plus intéressante de l'émission. Voilà. Je sais que tu connais un peu Greg. Greg, dans la vie, il a deux passions, le sport comme toi.
Ouais.
Et des infos nulles, pas comme toi. Et tous les jours, il nous sort une info dont on se fout royalement. On t'écoute, Greg.
La première webcam. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'elle a été
branchée? Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre?
Hein? Là, tu vois, je savais que c'était
Oui, bah oui. Ça m'intéresse tellement pas.
2000.
Non, 1991. La première webcam fut branchée au département des sciences informatiques de l'université de Cambridge. C'était donc en 91. Pour que les membres du département puissent surveiller le niveau de la cafetière et éviter ainsi de se déplacer pour rien.
C'est génial.
Il fallait se connecter sur un flux qui s'appelait X-Coffee.
Il a bossé son sujet en
fait. J'ai deux infos dans l'info. Fallait aller sur un flux qui s'appelle X-Coffee. Tu voyais le niveau de la cafetière.
Ouais.
Ça a duré jusqu'en 2001 pour cette première webcam de l'histoire qui a été vendue pour 5 000 $ aux enchères.
Ouais.
Et c'est la société Krups qui fait des cafetières qui l'a racheté.
On s'en fout.
C'est Krups.
Trop d'infos dans l'info, c'est vrai.
Oui.
C'est
Krups.
Comment s'appelle le site?
X-Coffee.
Ce qui est devenu X-Vidéo.
Et après, ils ont fait fortune. Merci beaucoup, Greg. On te retrouve dans quelques minutes pour le trash talk du jour, beaucoup plus sérieux, consacré à un tournoi de judo à Abu Dhabi.
Ouais, un tournoi international, un truc important quand même. Les athlètes israéliens ont été très mal reçus, et c'est le moins qu'on puisse dire.
Très très sale histoire, ce sera dans le trash talk dans quelques instants.
Du lundi au vendredi, Move 13 Actu.
13-18 sur Move, c'est l'heure de la Zumba Actu de Guérin en mode BFM Business aujourd'hui. Hein. Tu t'intéresses à l'opérateur de téléphonie et de télévision Orange qui se diversifie.
Oui, c'est fou, ma vie a changé. J'ai découvert que les pages saumon du Figaro, c'était en fait des pages économiques bah et oui. non pas le supplément PQ. Je ne savais pas. Et donc j'ai découvert en lisant qu'à partir d'aujourd'hui, en plus d'Internet, télé-téléphone, Orange devient une banque en créant Orange Bank. Une offre bancaire 100% mobile qui veut casser les codes de la banque. Puisque la banque s'écrit en anglais. Voilà, c'est comme ça qu'ils cassent les codes. Pour le reste, c'est pareil, hein. C'est une appli, des virements par SMS. Sur le papier, c'est une banque. Voilà. En ligne, donc c'est une sodomie, mais en Wi-Fi. Voilà. Oui, franchement, pourquoi créer une banque? Je veux dire, la 4G dans les transports, d'accord, mais une banque. Heureusement que je suis là. Moi, j'ai d'autres idées bien meilleures que les banques pour Orange et d'autres opérateurs d'ailleurs.
Le top 5 des nouveaux business potentiels pour les opérateurs, c'est tout de suite après un mot de notre sponsor, bien sûr.
Ce top 5 vous est offert par eRun, la première simulation de running pour faire croire à vos amis que vous faites du footing sans jamais courir. eRun, le meilleur du running, sans jamais souffrir.
Très bien. Alors, tu penses à quel autre type de business? Ça pourrait très, très bien marcher. Quel autre type de business pour Orange Guérin?
Bah, enfin, évidemment, Orange. Le jus de fruits.
Mais bien sûr. Mais oui.
On est bête. Quand tu t'appelles Orange, c'est quand même beaucoup plus évident que les télécoms. Parce que la télé d'Orange, ça n'a pas de sens. On dirait le nom d'une chaîne locale dans le Vaucluse. Genre le CNews d'Orange. Alors que le jus d'Orange, là, on comprend. Là, tu lances un concept de livraison de jus et smoothie frais. Après, on est chez Orange. Donc, c'est livré entre 8h et 17h chez toi. Ouais, c'est pas hyper précis.
Très bien. Mais sur le papier, c'est pas con du tout. Faut encore bosser un petit peu le concept. Une autre idée.
Oui, Orange pourrait faire comme Rihanna. Attention, faut le voir porter.
Faut se projeter.
Et se lancer dans les cosmétiques. Ouais. Riri propose avec sa marque Fenty des fonds de teint pour les peaux noires et métisses. Ouais. Et là, pour Orange, tu crées peau d'orange. Le nom est pas ouf, c'est un peu niche. Dire que voilà, ça s'adresse à Donald Trump, Morandini et les dames en léopard qui vivent à Cannes. Alors, sinon, tu changes, tu fais Orange Flow pour Cristiano Ronaldo. Et là, ça marche sur Internet. Quel flow !
Ouais, je suis pas sûr. T'as rien pour les autres opérateurs du coup ?
Si, pour Bouygues Télécom, j'ai un projet de magazine en ligne, ça s'appelle Bouygues Télépoche. C'est Télépoche avec les résumés de Joséphine Ange Gardien et l'histoire de sa Légion d'honneur. Ouais, c'est pas ouf. Mais sinon, il y a les objets connectés. C'est comme les objets normaux. Les objets connectés, vous connaissez, sauf que oui. Ça coûte 50 fois plus cher et il y a un chargeur. Donc, je propose Bouygues Télécapote. C'est des préservatifs connectés en Wi-Fi quand on l'utilise. Ça compte les calories, la distance parcourue. Tu peux le partager aussi avec tes amis. Alors, c'est ludique. C'est manger, bouger.
C'est pas mal. Pour SFR, qu'est-ce que t'as ?
SFR change de nom pour devenir Altice.
Oui, c'est vrai.
Vous savez ça, ouais. Mais il faut aller plus loin. Changez tout. Ne faites plus de télécom, ça marche pas. Le service client est nul. Personne ne regarde SFR Sport. Je veux dire, faites des yaourts avec un nom comme ça. Altice, le roi du Bifidus actif.
Ouais.
T'inventes même, tu crées Bifidus Altice. De toute façon, personne ne sait ce que c'est le Bifidus. Ça veut rien dire. Ça passe. Enfin, ça passe. C'est comme la 4G des SFR, ça passe pas partout.
Allez, pour Free, t'as rien pour Free.
Bonjour, c'est France 2, cache investigation.
Voilà, elle l'a acheté, Alice, pour Free. On va faire du guacamole parce qu'ils ont besoin d'avocat.
Très bien. Merci beaucoup Guérin. Orange qui s'intéresse pour de vrai cette fois-ci aussi beaucoup à l'e-sport, hein. Ouais. La nouvelle chaîne de télé dédiée à l'e-sport ES1 sera diffusée en exclu chez Orange avant d'arriver chez les autres opérateurs. On va revenir à cette chaîne de télé et au phénomène e-sport avec Max et notre invité Philippe Rodier, auteur du livre Le phénomène e-sport raconté par les gamers. Guérin, on se retrouve pour les gossip-pop juste avant 13h30. Il sera un peu plus de 13h30 je pense. Au programme, oui. Beyoncé qui va jouer dans le nouveau film Le Roi Lion, 13h22 sur Move.
Du lundi au vendredi, Move 13 Actu, Move jusqu'à 13h30.
L'inside de Move 13 Actu, tous les jours un reportage en immersion. Mardi, Max, t'es allé à la soirée de lancement de la Paris Games Week.
Ouais, le grand salon du jeu vidéo, c'est en ce moment et jusque dimanche au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris, et ça abrite aussi l'ESWC, ouais. Esports World Convention. Explication de Julien Brochet, l'organisateur.
L'ESWC, c'est très simple, c'est des compétitions internationales sur du jeu vidéo. Vous remplacez le sport par du jeu vidéo et vous avez le SWC.
Eh ben, il explique vachement mieux que toi, Philippe.
5 secondes.
Le gars, il a bossé sa réputation. Il a bossé sa réputation. C'était pas la même question, c'est vrai.
Non,
c'est vrai.
Donc le SWC, c'est français, ça existe depuis 2003. C'est des compétitions de jeux vidéo en solo et par équipe, en public, avec des joueuses et des joueurs venus du monde entier. Je précise d'ailleurs le truc magique avec l'e-sport. C'est qu'il n'y a aucun critère de sélection en dehors des performances dans le jeu. C'est mixte, ça mélange filles et garçons. Philippe, c'est une différence majeure avec le sport traditionnel, non ?
Ouais, après, il n'y a pas de. C'est un sujet qui revient pas mal aussi. C'est est-ce que les filles, justement, doivent être intégrées au tournoi masculin ? Parce qu'elles, elles espèrent vraiment rester, justement, dans le tournoi féminin.
Ah ouais, elles aimeraient qu'il y ait un tournoi dédié aux filles ?
Ouais, non, il y a des tournois dédiés aux filles, mais elles se posent la question, justement, s'il ne faut pas rejoindre le tournoi des garçons. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'intérêt du public pour les tournois féminins. Parce que
Mais pourquoi ?
Et bien parce que le niveau n'est pas assez élevé. Voilà. C'est peut-être un peu condescendant à dire, mais c'est la vérité.
L'explication que m'avait donné Julien Brochet, justement, c'est qu'il y a moins de filles qui se lancent dans l'e-sport. Donc, statistiquement, il y a moins de, joueurs, de joueuses de haut niveau, en fait, tout simplement.
C'est comme dans le sport classique, quoi. Comme dans les compétitions sportives.
Je pense qu'il y a un phénomène sociétal qui est très important. C'est Vanessa Lalo, qui est une psychologue assez réputée dans le milieu numérique, qui en parle beaucoup. C'est que je pense que dès l'enfance, on matraque un peu les filles avec le côté, pas dérivé sur la théorie du genre, etc. Mais les filles sont, comment dire, parquées pour faire des choses un peu moins violentes que les garçons, et du coup, elles viennent moins souvent que les garçons vers les jeux vidéo violents.
Je peux te dire que moi, ma fille, elle m'a mis des branlées dans les jeux vidéo. Ouais. C'est quelque chose de bien.
Oui, mais c'est toi.
Je me fais humilier.
Ta fille, à quel âge ?
Elle a 8 ans.
Elle a 8 ans, c'est peut-être plus récent.
Genre peut-être.
Notre génération d'avant, c'était ce que je suis en train de décrire.
C'est plus dur. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la sélection pour ces compétitions de jeux vidéo, ça se fait d'abord par des tournois sur le net. Et qui dit tournoi dit forcément thune.
Alors là, on est encore loin de ce qui se fait dans le sport traditionnel. J'en ai parlé avec Bruce Granek, c'est un peu le Zidane du PES et FIFA. Il a été joueur pro de 2005 à 2013, écoute ça.
J'ai remporté mon premier gros chèque, on va dire, avec le SWC. La Coupe du Monde, c'était sur PES 5 à l'époque. C'était des sommes qui étaient déjà quand même importantes. Et je me suis dit que c'était peut-être possible d'en vivre, mais que c'était quand même très compliqué à l'époque, parce que au-delà des gains de tournoi, il n'y avait pas d'autres revenus.
Ouais. Voilà, alors d'après toi, Bruce Granek, donc le champion de PES et FIFA, champion absolu, il a gagné combien durant sa carrière ?
Toute sa carrière ?
Je sais pas.
Uniquement avec l'argent donné dans les tournois, les gains.
500 000 euros ?
100 000.
Moi, ouais, je dirais moins que 500 000.
Ouais, alors on est très très loin de tout ça. Hein. C'est environ 70 000 euros sur l'ensemble de sa carrière.
Sur toute sa carrière.
Ouais. D'accord. Alors cela dit, ça c'est quelque chose qui évolue très vite dans l'e-sport. Aujourd'hui, c'est des carrières pro avec des équipes, des coachs, des sponsors. Même si, comme me l'a expliqué Julien Brochet, ça reste quand même assez compliqué.
On peut en vivre, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Ça ne concerne que les 10 meilleurs joueurs e-sport français qui, eux, gagnent très très bien leur vie. Il y en a certains qui arrivent à en vivre tout juste, mais la majorité, ce sont des joueurs semi-pro, voire des joueurs amateurs.
Ouais. D'accord, alors l'e-sport c'est évidemment les joueuses, les joueurs, les tournois on l'a dit, mais aussi les commentaires en direct comme le foot finalement.
Bah ouais, et là aussi il y a des stars, hein, les Grégoire Margoton ou les Pierre Ménès du jeu vidéo, bah Pomfétude par exemple ou Chips et Noix.
Oh là là, soit ta belle en gage ultime la part de Nami, mais ça ne servira strictement à rien puisque les dégâts des Fnatic sont colossaux.
Tu te rends compte Lise ? Les dégâts des Fnatic qui sont colossaux.
Ouais, et encore Chips et Noix, c'est pas les plus techniques dans le commentaire. J'ai croisé Noix justement à l'ESWC, dans la vraie vie il s'appelle Charles Lapassa. Lui, clairement, son objectif c'était de rendre l'e-sport plus accessible.
Déjà que l'e-sport c'est la niche, mais eux ils s'adressaient aux e-sportifs hardcore gamers. Donc on est dans la niche de la niche de la niche. Donc nous le but c'était ok, démocratisons ça, vulgarisons l'e-sport pour que mamie Moujotte elle puisse comprendre si jamais elle se pointe.
Écoute, elle doit nous écouter aussi, alors on l'embrasse. Voilà. Alors, les joueurs, les tournois, les commentateurs et donc très logiquement bientôt la chaîne de télé.
Il y a des émissions d'e-sport sur Canal Plus et Bein, mais le 1er décembre là c'est carrément une chaîne dédiée à l'e-sport qui arrive, ça s'appelle ES1. Explication de Bertrand Amar, c'est le créateur de ce projet.
On va proposer des choses différentes, des magazines, des documentaires, des choses qui n'existent pas dans l'écosystème digital aujourd'hui. La deuxième cible, c'est d'aller chercher ceux qui aiment bien les jeux vidéo, ceux qui aiment bien le sport et qui n'ont pas encore les clés pour aller suivre de l'e-sport, pour qu'eux, derrière, fassent le chemin inverse, découvrent l'e-sport à la télévision et ailleurs, regardez peut-être plus après sur Twitch.
Ouais. Encore une fois, un souci de vulgarisation et d'ouverture.
Philippe, c'est compliqué d'intéresser des gens à l'e-sport qui n'y connaissent rien en jeux vidéo ?
Sincèrement, moi je joue donc depuis 2000, les gens qui venaient dans les salons, dans les tournois, ils s'y intéressaient assez vite. Même s'ils ne comprenaient pas ce qui se passait à l'écran forcément, ouais. Parce que les jeux sont assez compliqués, tu as des belles images et tu comprends qu'il se passe quelque chose et qu'il y a de l'émotion, comme dans tous les sports. Ouais. Donc, je dirais pas que c'est très difficile à l'écrit, c'était difficile parce que tu dois utiliser un langage qui est un peu qui est tourné vers les gens alors qu'il y a beaucoup de termes en anglais, de termes très techniques. Donc à l'écrit, c'est difficile. À l'oral, ça l'est un peu moins. Et la vulgarisation de l'e-sport existe depuis le début de l'SWC avec des commentateurs comme Lame qui va qui est un mec génial et qui arrive à faire ça très bien. Donc il y a des mecs vraiment doués sur faire cette passerelle vers le grand public. Et heureusement, sinon on aurait du mal à
populariser le phénomène. Guérin.
Ben moi-même, tu sais que j'ai pas joué à la console depuis la Mega Drive.
Oui. Wow.
J'ai assisté pendant une semaine à la Paris Games Week pour des raisons sombres que je ne vais pas développer ici. Moi-même, j'ai été fasciné par la compétition féminine de Counter-Strike. Je l'ai regardé en entier.
Bah ouais, je pense que c'est quand tu arrives à se prendre au truc, même si tu captes pas tout ce qui se passe, au bout d'un moment.
Et les commentaires, ils faisaient beaucoup aussi.
Ah, mais c'est les commentaires, ça joue.
Les mecs sont vraiment doués aux commentaires.
Ils sont très très bons, ils sont vraiment très bons.
Bon, après, globalement, peut-être que ça manque encore d'une instance internationale, mais j'imagine que ça va arriver, c'est certain. De toute façon, pour info, donc, le comité olympique envisage de laisser une place à League of Legends et StarCraft 2 au JO de Tokyo 2020. Ce qui soulève évidemment des questions comme celle du dopage et de la tricherie.
Philippe, il y a du dopage dans l'e-sport?
Ouais, bien sûr. Comme, moi, je citerai pas le nom de l'équipe.
C'est pas de toute façon.
Mais à la Coupe du Monde 2006, moi j'ai un très mauvais souvenir, c'est que j'ai vu une équipe taper de la coke avant un match.
Mais non!
Bien sûr que si.
Et il n'y avait pas de contrôle antidopage, mais si ça devient une discipline olympique, il va falloir qu'il y ait des contrôles.
C'est une des composantes essentielles pour que l'e-sport rejoigne les Olympiques. Aujourd'hui, tu as une drogue qui s'appelle l'Adderall, en gros, qui te booste les facultés cognitives et la vue, quoi. Et ça existe. Après, il y a des tricheries dans le jeu aussi, donc des trucs pour avoir la visée améliorée, etc. Et évidemment, quand tu veux faire intégrer une compétition comme ça aux Jeux Olympiques, t'es forcé d'être hyper regardant sur ça. C'est important.
Jeux Olympiques encore, non, au contraire, il vaut mieux être dopé. Mais cela dit, Julien Brochet, donc le boss de l'ESWC, lui, il m'expliquait que ils sont déjà ultra vigilants là-dessus. C'est-à-dire que typiquement, un mec qui arrive avec sa clé USB, il pourra pas la connecter sur le PC pendant la compétition. Une clé USB qui pourra lui permettre d'avoir des avantages dans le jeu. Et puis voilà, le matériel est très réglementé aussi. Après, pour ce qui est des substances, il y a pas pour l'instant de cas vraiment avérés. Toi, tu nous
parles. La drôle, c'est tombé. Il y a des histoires monumentales. Moi, j'ai fait j'étais pas à celle-là, mais il y avait un gros tournoi au Brésil avec une meilleure équipe du monde et le mec avait joué avec un sac de couchage sur lui, en fait, pour pas qu'on voit son écran. Je vous jure que c'est vrai.
D'accord.
Et le mec avait triché. Voilà. Sauf que les gens l'ont vu après, quand même, parce que le mec
il s'est fait pécho
et son équipe s'est fait exclure.
Normal. Merci beaucoup, Max. La Paris Games Week, c'est jusqu'à dimanche. T'as profité de ta visite là-bas, Max, pour rencontrer Alonso, le rappeur qui est un très très gros fan de jeux vidéo. Son interview vidéo est à retrouver tout de suite sur move.fr. Ça surprend toujours. C'est l'histoire de la vie, Guéran, le cycle éternel. On peut même parler de recyclage éternel, là.
T'es en train de dire que Beyoncé devrait aller dans la poubelle jaune? Non, t'es un malade! Tu vas te faire réduire en poudre et vont te sniffer, Nassar!
J'ai jamais dit ça.
Non, mais la reine des abeilles, Beyoncé, va jouer dans le Roi Lion. Dans la chaîne alimentaire, ça n'a pas de sens. Mais après, les explications, vous comprendrez.
Ce sera dans les Gossip Pop, juste après le Trash Talk. 13h30 sur Move.
13h, 13h30.
Move très actu.
Move. Alex Nassar.
Le Trash Talk de Greg, la seule chronique sportive qui ne parle pas de sport. Aujourd'hui, Greg, une compétition internationale de judo accusée d'antisémitisme.
C'était à Abu Dhabi, il y a ça quelques jours, le Grand Slam international de judo. Grand Slam, c'est un peu comme un Masters au tennis.
D'accord.
Abu Dhabi, comme tu le sais, c'est aux Émirats Arabes Unis. Et détail important, un pays qui ne reconnaît pas l'État d'Israël.
Alors, sauf qu'il y avait les judokas israéliens pendant ce tournoi. Comment ils ont fait?
Et ça s'est mal passé dès le début, en fait. Avant même que le tournoi commence, les judokas israéliens n'ont pas eu le droit de participer avec leur kimono traditionnel, ceux sur lesquels on peut voir le drapeau du pays. Ou encore les trois premières lettres de leur pays dans le dos. Nous, c'est FRA, évidemment, France. Eux, c'est ISR pour Israël.
D'accord, donc obligation de porter des kimonos neutres. Déjà, ça, c'est n'importe quoi. Mais ça s'est pas arrêté là.
Hélas, non. L'organisation d'Abu Dhabi a clairement fait comprendre aux judokas israéliens qu'ils n'étaient pas les bienvenus, mais certains judokas s'y sont mis aussi. La marocaine Aziza Shakir, par exemple, a tout fait pour esquiver la poignée de main traditionnelle à la fin de son combat contre l'israélienne Shira Rishoni. La séquence tourne sur le net. Tu la vois littéralement fuir le tatami au moment fatidique.
C'est assez hallucinant. La séquence est vraiment incroyable. Tu te dis, mais comment ça peut arriver, ce genre de truc, en 2017? Et ça a été comme ça toute la compétition.
Aucun athlète arabe n'a serré la main d'un athlète israélien. Et plus loin que ça encore, lorsque l'israélien Tal Flicker est monté sur le podium pour recevoir sa médaille d'or en moins de 66 kilos, normalement, comme c'est la tradition, il aurait dû entendre ça. Qui est l'hymne de son pays.
C'est l'hymne officiel d'Israël.
C'est l'hymne israélien. Donc
d'accord.
Il aurait dû entendre ça comme chaque sportif, sauf que lui, non. Finalement, il a entendu ça.
The International Judo Federation.
And now the national anthem of the International Judo Federation.
Voilà, même le commentateur est gêné. C'est-à-dire qu'il veut annoncer que c'est l'hymne israélien. En fait, non. Voilà, ça n'a rien à voir.
Ça n'a absolument rien à voir.
Non, la gênance du commentateur, parce que ce qu'on entend, c'est l'hymne de la Fédération Internationale de Judo, en fait. Et le drapeau qui monte est aussi celui de la Fédé de Judo. Pas de drapeau israélien, pas d'hymne israélien.
Mais ils auraient dû rien mettre. À la limite, c'était encore moins gênant, parce que là, ils ont dit, tiens, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir foutre?
C'est ça.
On va mettre ça et puis ça. C'est hallucinant.
Les images sont assez hallucinantes, c'est vrai. Et pendant cet hymne bidon, Tal Flicker est resté digne. Il a chanté a cappella, donc à Tikva, l'hymne israélien, et il s'est exprimé juste après dans une vidéo postée sur Twitter.
J'ai décidé de chanter Atikva sur le podium avec tout mon cœur parce qu'Israël est mon pays, je suis fier d'être israélien et l'hymne qu'on a joué à la place n'était qu'un bruit de fond. Dans mon cœur, j'ai chanté l'hymne israélien et je suis fier de mon pays.
Ouais, assez fou hein, de voir ce genre de truc comme ça dans une compétition internationale en plus, c'est pas un truc local amateur. Quoi.
Les organisateurs émiratis ont finalement présenté leurs excuses à la délégation israélienne. Ces événements ont aussi ouvert un débat à une nouvelle réglementation qui sanctionnerait ce type de comportement parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Pour la petite histoire, Israël est la nation la plus titrée de ce fameux tournoi avec une médaille d'or et 4 de bronze.
Ah, joli pied de nez, hein, voilà, comme on dit chez toi, Greg. Exactement. Merci beaucoup, Greg, pour ce trash talk. Philippe, est-ce qu'il y a du racisme dans l'e-sport?
J'ai un souvenir, ça me rappelle une histoire qu'il y avait eu, donc à une Coupe du Monde où c'était des joueurs français qui avaient insulté les Israéliens en disant Free Palestine. Un truc très très con. Et ce que je viens d'entendre, c'est vraiment très stupide. Ouais,
c'est très stupide.
J'avais pas entendu parler là.
C'est assez hallucinant cette histoire. Bon, merci en tout cas, Greg, pour ce trash talk. L'artiste, ça arrive sur Move avec Kachou. Dans moins de 3 minutes, ce sera avec Morgane. Restez connectés sur Move.
13h, 13h30.
Move très actu. Move. Alex Nassar.
Les gossip hop de Move très actu, les infos hip-hop du jour, un mijoté avec des oignons et du citron vert façon poulet yassa, recette ouest-africaine, parce qu'on démarre avec Beyoncé et le Roi Lion.
Oui, Beyoncé rejoint le casting du film Le Roi Lion. C'est un nouveau film, évidemment. Ils n'ont pas ajouté Beyoncé en 3D qui chante Single Ladies en plein milieu du dessin animé au-dessus du corps de Mufasa. Ça n'aurait pas de sens. Je parle bien sûr de l'adaptation du film d'animation en film avec de vrais acteurs, dont Donald Glover sera dedans. Il va incarner Simba.
D'accord.
Mais tout le monde s'en fout parce qu'il y a la Reine des Abeilles qui a rejoint le casting.
Mais elle va jouer qui alors?
Elle va jouer le rôle de Nala, la copine de Simba quand il était petit. Ça n'a aucune espèce d'importance dans ce film. Mais c'est malin parce que Beyoncé joue très mal. Donc on peut mettre son nom sur l'affiche, ouais. Ça attire les gens, mais elle va pas saloper le film. Déjà que le film va faire polémique.
Bah pourquoi il ferait polémique ce film? Tout le monde aime le Roi Lion.
Bah oui, mais techniquement c'est de la réappropriation culturelle, hein. C'est un manque de respect vis-à-vis des vrais lions. J'imagine que les associations de défense des droits des félins vont dénoncer ce vol culturel avec le hashtag Miaoutou. Même si c'est galère de tweeter avec des patounes, hein, pleines de griffes et des coussinets, mais bon, moi je dis ça pour prévenir, ça sort en 2019, soyez prêts.
Très bien, on surveillera ça de près. On continue avec Kendrick Lamar et U2.
Oui, alors je précise qu'on précise, on parle pas d'un hashtag U2, hein, on parle d'un groupe.
Le groupe, oui.
Ils ont sorti un featuring avec Kendrick Lamar. C'est pas la première fois qu'ils collaborent sur l'album de Kendrick. C'était déjà le cas sur son Triple X. Et là, rebelote, comme on dit nulle part depuis 1926. Bref, le morceau s'appelle Get Out of Your Own Way et ça ressemble à ça. Ouais, regarde.
C'est du YouTube, quoi.
Ouais.
Voilà. Grave. Voilà, alors cherchez pas, on n'entendra jamais Kendrick sur l'extrait. J'ai pas payé Spotify, donc j'ai que 30 secondes. Hein, je n'ai pas non plus acheté un son de YouTube. Je suis pas un directeur commercial blanc de 46 ans qui dit tip top. Hein, dis pas ça pour toi, Greg. Je me respecte. Imaginez juste que Kendrick arrive. Sit down, be humble, machin, avoir un truc comme ça. Ça va.
Il nous a mimé.
Voilà, je l'ai fait à la bouche.
En featuring, c'est magnifique. Merci beaucoup, Guéran. Toute l'actu hip-hop en temps réel, c'est évidemment sur move.fr. Merci à toute la team Move très actu. Et merci à Philippe Rodier, auteur du livre Un jouet sérieux, le phénomène e-sport raconté par les gamers. C'est dispo depuis aujourd'hui aux éditions Hachette. Il y a un exemplaire à gagner. Ça se passe sur les réseaux sociaux de Move, sur Twitter et Snapchat notamment. Restez connectés. On vous dit dans quelques minutes comment faut faire pour le gagner. Salut, Morgane.
Salut, ça va très très bien.
Il a
bugué.
Très, très
bien. Ouais, on me parlait dans les oreilles. Si vous voulez tout
ça, voilà, d'accord, comment ça va?
Ça va très très bien.
Bon, il s'est passé des choses folles le 2 novembre.
Ouais, il s'est passé un truc.
On a pas trop le temps là, non?
Non, si franchement, à 13h36, on n'a pas de problème.
Ok, d'accord.
Petite devinette, les gars. On va vous appeler Move 13h14 Actu.
Oui,
désolé. Non, mais il n'y a pas de problème, les gars. C'est les vacances, en plus, on se fait plaisir. Bon, allez, on cherche un truc qui s'est passé le 2 novembre 2010 en France. Une grande première, c'est la naissance de jumeaux qui s'appellent Jérémy et Karen. Bon, jusque-là, tout va bien, les gars, forcément.
Ouais.
À votre avis, quelle est la particularité de ces deux jumeaux?
Ce ne sont pas des gens, ce sont des ours, des pandas, des
non,
trucs
ça, c'est un truc technique, scientifique.
Ils sont aussi à moi.
Oula.
Non.
Ils sont pas du même père.
Non.
Je joue déjà aux jeux vidéo.
Comment?
Non, ils sont pas des jeux aux vidéo. Non. C'était une grande première en France. Ils sont nés d'ovocytes congelés.
Ah, carrément.
Oh, comment je vous ai. Il
fallait le trouver, ça. L'art et la manière de flinguer l'ambiance.
Ouais. Mais attendez, c'est un truc super. Franchement, une avancée pour la science. Je trouve ça magique. Vous vous rendez compte, les femmes qui étaient atteintes de maladies ont congelé leurs ovules et après elles pouvaient être enceintes.
Mais putain,
en 2010, les gars.
Excuse-nous, Jamy.
Qu'est-ce que vous voulez, les gars? La science, ça me passionne, c'est comme ça.
Non, c'est, bon.
C'est bien.
Voilà, c'était la petite news du jour.
Un petit anniversaire?
Ouais, un petit anniversaire. Jean-Luc Reichmann aujourd'hui, 57 piges.
Ouais, on s'en est pas convaincu.
Pas besoin. Non, franchement, pas trop convaincu. Donc, justement, si vous avez un anniversaire à souhaiter aujourd'hui de novembre, allez-y, faites-vous plaisir.
C'est l'anniversaire de mon oncle.
D'accord, bon anniversaire.
Sinon, c'est aussi l'anniversaire des bébés congelés, là.
Ouais,
des bébés. C'est leur 7 ouais, c'est leur 7 ans aujourd'hui.
Jérémy et Karen, on les embrasse.
Exactement, bon anniversaire.
Bon, bah, demain alors.
Ouais, à demain, 13h.
Salut Morgane.
Ouais, à demain.